Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, avec Laure Broulard, avec aujourd'hui Sébastien Rocheron qui est à la technique de l'heure du crime. Et à la une, un anniversaire. On a envie de leur dire merci pour ce moment. 50 ans de la brigade de... Alors comment... Mathieu Frachon, bonjour d'abord, vous bonjour. Êtes mon invité. Vous venez de publier à l'occasion de ce cinquantenaire de l'Antigang, la grande histoire de l'Antigang, préfacée d'ailleurs par Robert Broussard, qu'on aura dans l'émission tout à l'heure. C'est un livre qui est paru hier aux éditions Pygmalion. Et alors, vous voyez, à force de dire Antigang, je me souviens plus ce que veut dire exactement BRI.
Brigade de recherche et d'intervention.
Voilà, d'accord, merci.
Je suis là pour ça.
Voilà, mais ça commence par vous voyez, une absence. Alors, je dois dire d'ailleurs vraiment bravo pour votre livre, parce que c'est vrai que on est avec les brigades d'élite de la police nationale, les brigades mythiques du 36 quai des Orfèvres, et pour préparer ce livre, vous êtes allé sur place d'ailleurs, parce que ils étaient au quatrième étage, hein, je crois.
Ce qui s'est passé, c'est que moi d'abord je voulais pas faire un livre de patrons, c'est-à-dire n'avoir que des patrons, que des directeurs, c'était un petit peu compliqué. Donc je les ai eus bien sûr, mais j'ai eu aussi des hommes de terrain, des anciens inspecteurs, des gens qui me racontaient un peu le côté du décor qu'on ne voit pas toujours. Et c'était très intéressant. Je me suis rendu dans les locaux, alors c'était amusant d'un côté parce que c'était des locaux, et même de l'autre d'ailleurs, c'est parce que c'était des locaux que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que je connais bien le 36, je me suis beaucoup baladé, parce que j'ai fait un livre sur la crime, etc. Oui. Mais cette partie-là, je ne la connaissais pas. Donc je me suis retrouvé à passer dans un dédale, ce qui permet de me comprendre certaines affaires récentes, de passer dans un dédale, de me balader, de me retrouver
à ce fameux... C'est reparti les mains vides, hein.
Oui, moi, j'ai rien pris, j'ai rien volé. Mais de me retrouver justement là-bas et de me retrouver sur cette espèce de quatrième, cinquième étage, c'est assez bizarre. On voit un rail de chemin de fer qui traverse une pièce à un moment. Et à ce rail est suspendu une sorte de palan qui descend.
Une grosse caisse métallique.
Qui sert à descendre le matériel de l'Antigang.
Alors, vous avez raison de parler de ça tout de suite parce que, en fait, l'Antigang, on va parler de la méthode de Lemuel, de ce qui se passait en 1964, de cette année noire, hein, vraiment, on peut le dire, hein, pour la police, quoi. 500 hold-up avec très très peu de résultats. Mais au fur et à mesure des semaines et des mois et des années, l'Antigang ne fait pas que les braquages.
Ah non.
Et ça va être un peu un ancêtre du raid. D'où l'idée justement d'avoir un matériel que, en général, qui descend dans cette fameuse caisse qui est sur un palan, quoi. C'est extraordinaire. Et alors, il paraît que ça passe devant la salle des avocats au palais de
justice. Ça passe devant la bibliothèque des avocats, qui est un lieu absolument magnifique au palais de justice. Et les avocats voient descendre ce truc dans un grincement d'enfer qui aussi, en 40 et quelques années, parce que je crois que l'histoire doit avoir 40 ans, ça n'a jamais touché une vitre. Mais les avocats sont un peu surpris quand même.
Donc vous avez mené l'enquête, si on peut dire, au 36 pour retrouver les témoins de l'époque et puis évoquer toutes ces années. Reprenons en quelques instants, parce que dans tout à l'heure on va voir les grands moments, parce qu'il y a une légende, mais il y a une réalité aussi, et c'est pas la petite histoire que vous racontez, c'est la grande histoire, hein, de l'Antigang. 1964, expliquez-nous comment est né véritablement l'Antigang avec ce commissaire exceptionnel
François Lemuel
qui nous écoute François peut-être Lemuel, d'ailleurs, hein,
j'espère
aujourd'hui
François voilà. Lemuel qui est vraiment le grand bonhomme. C'est un commissaire de police qui est un pur produit du 36, qui est dans ce fameux, à l'époque, on n'est pas encore sur des concours qui sont tous les mêmes. Le 36 fait concours à part, chambre à part, commissaire à part, tout à part par rapport à la police nationale. Et donc, lui, il est commissaire à ce moment-là. Il dirige ce qu'on appelle une brigade territoriale, ce qui sont aujourd'hui des DPJ. Bref, un commissariat, un grand commissariat d'arrondissement, de grands arrondissements. Et à cette époque-là, recrudescence de braquage, premier braquage avec prise d'otage, et la police est totalement impuissante. C'est-à-dire que la police, elle arrive, elle constate, elle fait un travail d'enquête. Elle part du crime pour aller au criminel. Jusque-là, c'est normal, on a toujours fait ça. Le Breton, lui, François Lemuel, donc tombe à un moment sur un cadavre. dit « Je connais ce gazier, je l'ai déjà vu, si on avait pu prévoir », et là il se met à réfléchir. Rentré chez lui, enfin dans son commissariat, il a tapé une note qu'il a envoyée à Max Fernet, qu'on surnommait Max le menteur pour son habileté politique, le directeur de la PJ, à l'époque, qui a un record, je crois, 18 ans, il est resté. Et arrive la note, connaît le moelle, connaît ses qualités, dit ben, « effectivement, c'est brillant ». C'est-à-dire que l'idée, c'est de partir du renseignement amené par d'autres brigades, d'autres policiers, des indicateurs, un peu moins, ils n'aimaient pas ça, et de se dire, tiens, un tel, on va dire Kiki Pia, par exemple, donc c'est un des voyous,
c'est la première affaire.
Ouais. Prépare un coup. Ouais. On surveille Kiki Pia, on file, on l'écoute, et...
On essaie de savoir
le renseignement est bon, l'objectif est ciblé, etc. Les policiers soit l'interceptent juste avant, c'est un peu compliqué à ce moment-là, mais là il y a une question juridique, soit après, puisque Max Fernet a lui-même dit pas d'intervention à chaud, c'est trop dangereux.
Bien sûr, parce qu'il y a des passants, il y a des tas de gens qui sont là, et il peut y avoir des balles perdues. Quoi, en
fait. Et bien ça s'appelle la police d'initiative, et c'est unique au monde à l'époque. Personne
ça n'existe
fait.
Pas. Ça c'est le moelle qui s'est dit, voilà, si j'avais su, parce que ce type je connais. Et ils vont finir assez rapidement par mettre au point une espèce de livre incroyable de wouzou du crime, c'est-à-dire de mettre dedans toutes les grandes figures, les beaux voyous comme disent les policiers. Et puis de temps en temps, on prend des nouvelles. Tiens, il est où celui-là? Ah ben, il est là. On envoie des policiers. Dis bah tiens, il était dans un bistrot. Il a rencontré, Riton. Les bretelles, parce que tous ces gens-là ont des noms incroyables. Enfin, à cette époque, en tout cas.
Oui, encore.
Et alors, qu'est-ce qui mijote? Et on les surveille, et puis, en fait, on les prend. Alors, juste avant, vous dites, ça, c'est compliqué, parce que, ça, c'est pour la justice que c'est compliqué, parce que, on peut arrêter les types, ils ont des cagoules dans le coffre, ils ont des armes, mais ils sont pas passés à l'acte.
Vous, Jacques Pradel, demain, vous faites un hold-up. Que vous vous retrouvez avec toute une bande, la RTL bande, admettons. Vous arrivez devant un.
RTL bande,
pourquoi pas? Vous arrivez devant une banque. Et on vous interpelle à ce moment-là.
Voilà.
Le délit n'est pas juridiquement constitué.
Ben non, j'ai été là par
C'est-à-dire que votre avocat, s'il est assez vicieux, et je n'en doute pas, votre avocat va dire mais attendez. Bon, d'accord, ils avaient des cagoules, ils avaient des flingues, mais on ne leur a pas laissé la possibilité de se rétracter, de dire, d'hésiter. Tandis que, la petite nuance, si on vous intercepte juste devant la banque, cagoulé avec l'arme presque dedans, là c'est juridiquement constitué. La différence entre les deux, c'est association de malfaiteurs ou vol à main armée. 5 ans dans un premier cas, 20 dans l'autre. Ça change un peu la donne.
Ce qu'il fallait dire. Alors, on va revenir sur la personnalité de François Lemoelle, on va revenir sur la personnalité de Broussard, de Marcel Leclerc, enfin, de tous ceux qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de l'anti-gang. Et on va tourner ensemble les pages de cette grande histoire. Et on va s'arrêter sur une affaire absolument exceptionnelle. C'est pratiquement ce que des scénaristes de films n'auraient pas osé imaginer. L'enlèvement le plus court de toute histoire du banditisme.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous vous racontons avec Mathieu Frachon qui vient de publier La grande histoire de l'anti-gang aux éditions Pygmalion, quelques-uns des grands moments de cette brigade, donc on a compris. Il y a une chose qu'on n'a pas dite encore, Mathieu Frachon, et que vous précisez dès le début dans votre livre, dans le système qu'avait imaginé le commissaire Lemoelle, et ça c'était aussi une nouveauté dans la police, il fallait dégager ces équipes, il y avait 6 équipes de 6 flics, il fallait les dégager du travail administratif, il fallait procédure. Qu'ils soient tout le temps sur le terrain. Donc ça veut dire que quand ils arrêtaient par exemple des voyous, ils passaient la main après à d'autres services.
En fait, selon les affaires, soit la procédure était faite par la brigade de répression du banditisme, qui à l'époque s'appelle la voie publique, soit par la brigade criminelle, et l'anti-gang, la BRI, est un service sans papier.
D'accord.
Qui passe d'une affaire à l'autre.
D'accord. Et alors, ils n'ont pas le costume trois pièces certains autres services des seigneurs de la crime. Eux, c'est plutôt basket, blue jean et
pour
blouson.
Pour se fondre dans la masse, pour être... on a dit d'ailleurs à l'époque, ça a été reproché que ces flics s'habillaient comme des voyous.
Ouais.
Bon, en même temps...
On les a appelés les cow-boys aussi.
Mais ça, ils n'aiment pas.
Ça, je sais. Alors, on va vous raconter tout de suite une histoire, cette histoire incroyable, l'enlèvement le plus court de toute l'histoire du banditisme. On va d'abord écouter un document RTL, ensuite vous nous donnerez un peu les tenants et les aboutissants de la chose, et puis on aura un autre document tout à fait extraordinaire. Alors, c'est l'enlèvement d'un banquier en fait, il s'appelle Bernard Mallet ce monsieur, et le 9 août 1977, il est à la fois enlevé par une équipe de malfrats au bois de Boulogne et libéré quelques heures après. L'explication, c'est que les policiers menaient une enquête et des filatures selon cette nouvelle technique depuis des mois et des mois, à l'insu, bien sûr, des malfaiteurs. L'événement fait, on l'imagine, la une de tous les médias et, en ce qui concerne RTL, l'ouverture du journal de Jean-Claude Larivoire qui commence avec le récit d'un autre journaliste d'RTL, qu'on connaît bien ici à l'heure du crime, Alain Hamon.
La personnalité des sept hommes arrêtés ce matin, ce ne sont ni plus ni moins, entre autres, qu'Eli Cohen et les frères Lachant, tous soupçonnés du rapt du PDG de Saab France l'année dernière, Guy Todorov. Ils étaient surveillés depuis très longtemps, comme vous venez de le dire, et pour cause, puisqu'on avait cité leur nom lors de l'enlèvement de M. Révéli Beaumont, le directeur de Fiat France, il y a quelques mois. Ce matin, ils ont donc enlevé M. Mallet, un banquier parisien, et ils l'ont emmené dans un café désaffecté du Plessis Robinson, toujours suivi par les policiers, et il y en avait beaucoup, je vous
signale, Alain Hamon, que M. Mallet est l'un des directeurs de la banque Neuflize Schlumberger et Mallet, la 24e banque de France.
Exactement. Et puis, vers 13h, on a déclenché l'opération. Les inspecteurs ont eu l'ordre d'arrêter les gangsters et ils ont délivré M. Mallet. Aucun coup de feu n'a été tiré. Par contre, il s'en est suivi une énorme bagarre, mais tout s'est bien terminé pour la police et pour le banquier, en tout cas. Alors, je vous le disais, 7 personnes ont été arrêtées, dont 3 très connus des services de police. Je vous répète, Eli Cohen et 2 des 3 frères Lachant, le premier étant en prison. Pour l'affaire Todorov, c'est chez lui et chez l'un de ses 2 frères arrêtés aujourd'hui que Guy Todorov avait été séquestré l'année dernière.
Voilà, un grand moment, évidemment. Le contexte de tout ça, c'est vraiment le hasard au départ de cette histoire incroyable.
Ah, c'est totalement le hasard, oui et non. Il y avait à l'époque, au centre de cette histoire, un inspecteur disparu tragiquement en 86 qui s'appelait Gérard Marley.
Ouais.
Gérard Marley, c'est le flic... le plus reniflard, le plus débrouillard. C'est quelqu'un qui a fait un jour une filature avec un bateau de pêche.
Oui, d'accord, oui.
Pour repérer des gens qui rentraient dans un système pavillonnaire,
oui.
Il s'est baladé en pantoufles, en charentaise, avec son journal sous le bras et son chien.
Oui, d'accord.
Parce que sinon, c'était impossible. Bref, ce jour-là, son groupe est planque à Pigalle Montmartre.
Oui.
Et voit sortir un type d'un bistrot. Et ce type-là, ils le connaissent, il est surnommé le Belge.
Ouais.
Il n'est pas belge du tout, il a une voiture immatriculée en Belgique.
Voilà, d'accord, c'est le Belge. Bon.
Et quand il est là, ils disent, tiens, ce type-là, il travaille avec telle personne. S'il est à Paris, c'est pas pour cueillir des fleurs. Donc,
on va le suivre.
On va le suivre.
Et il est bourré.
La poursuite est épique. Oui. Il est bourré. Il va, il est ivre. Il roule. Il va en plus se soulever, si j'ose dire, une prostituée.
Oui, donc
faire
ils vont
sa petite
attendre,
affaire. Ils vont attendre que ça termine. Il prend un sens interdit. Il y a des motards au bout. L'anti-gang déboîte, passe, arrive vers les motards. Police judiciaire.
Attention, il y a un type bourré qui va arriver.
Vous l'emmerdez pas, mais juste. Vous lui conseillez d'aller se coucher et surtout vous prenez bien son identité, qu'on voit sous quel faux nom il se... Bref, ils arrivent enfin à ce que j'allais dire, le loger.
Oui, comme ils sont sûrs qu'à ce moment-là, le type, trop content de ne pas avoir eu de problème avec les flics, va directement chez lui, quoi.
Et là, surtout, ça va durer 4 mois.
C'est-à-dire,
pendant 4 mois, et c'est l'obstination de Gérard Marley et des autres qui savent qu'il y a quelque chose au bout, et qui vendent l'affaire à leurs patrons respectifs, et qui disent, attendez, il y a un truc. Lesquels ont l'intelligence de dire, ok, foncez. Ils voient les types refaire un local vers Guy Moquet, refaire un ancien bar au Plessis Robinson. Ils pensent qu'ils se préparent quelque chose, que c'est sûrement un enlèvement, mais ils n'ont aucune idée de la cible.
Voilà. Et ils vont la trouver parce qu'ils vont les suivre.
Le jour même.
Parce que les malfaiteurs se déguisent en joggeurs, vont faire du jogging au bois de Boulogne, et là, les flics sentent qu'il va se passer quelque chose, puis ils assistent à l'enlèvement de Bernard Mallet qui promène son chien au bois de Boulogne.
Ouais,
bon,
ouais.
On le met dans un panier en osier, dans le coffre d'une voiture. Évidemment, les policiers savent très bien où ils vont. Ils savent qu'ils vont aller le séquestrer au Plessis Robinson. Et donc, c'est pour ça que c'est l'enlèvement le plus court de toute l'histoire. Voilà, une heure et quart.
Entre le moment où il est enlevé et le moment, je crois qu'il n'y a même pas deux heures.
Alors, ce qui est formidable, c'est que, évidemment, RTL est aussi sur tous les coups. Déjà, à l'époque, ça bouge. Et on va diffuser sur l'antenne un document extraordinaire qu'on va réentendre ensemble maintenant. C'est Michel Cohen-Solal, qui travaille pour la rédaction d'RTL, qui va recueillir sur place, où il se rend, les témoignages du banquier d'abord, qui va raconter ce qui s'est passé dans sa tête quand on l'a libéré, et puis le témoignage de Broussard, qui dirige à l'époque la brigade anti-gang,
c'est
et
numéro
qui est évidemment
deux.
Sur le terrain. Voilà.
Ah, moi j'étais là, cagoule, un truc comme ça, et quand on a frappé à la porte, il y a quelqu'un. Alors j'ai réussi à décoller un peu mon truc, il dit « Oui !» Puis c'est là, on a dit « Qui ?» Alors j'ai dit « Monsieur Mallet ». Alors il dit « Bougez pas, c'est la brigade anti-gang ». Alors là, moi je suis resté tranquille en attendant qu'on ouvre la porte et qu'on vienne me chercher.
J'ai cogné à la porte, j'ai dit « Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est la brigade anti-gang ». Alors là, il est visiblement, il a été surpris en disant « Mais c'est pas possible, comment vous avez fait venez me voir, venez me chercher, vraiment je suis très surpris de vous savoir de l'autre côté de la porte ». Et bien sûr, la porte était barricadée, était fermée à clé. Nous avons forcé cette porte. Et il était couché à même le sol, dans un endroit absolument infâme, noir. Il était enchaîné, il y avait 4-5 cadenas aux pieds, les menottes aux mains. Il était fixé au mur avec des chaînes. Enfin, c'est incroyable.
Histoire extraordinaire. Et vous racontez dans votre livre, Mathieu Frachon, que cette affaire est enseignée dans les écoles de police et notamment
au
FBI et à Quantico.
C'est un modèle.
Voilà, un cas d'école.
C'est un modèle.
Alors,
du genre.
On va faire une pause. On va se retrouver dans un petit instant avec Mathieu Frachon. On va vous raconter évidemment un autre grand moment, des autres grands moments de l'anti-gang autour d'un personnage qui est incontournable quand on parle de l'histoire de l'anti-gang. C'est Jacques Mérine.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Les 50 ans de la brigade anti-gang célébrés par le journaliste Mathieu Frachon dans un livre, La grande histoire de l'anti-gang, préfacé par Robert Broussard, qu'on aura tout à l'heure d'ailleurs en ligne. Livre qui vient de paraître aux éditions Pygmalion, j'ai bien dit Pygmalion. Et là, on va parler de Mérine, parce que, bien sûr, l'histoire de l'anti-gang est inséparable de l'histoire de Mérine, et c'est aussi presque le couple Broussard-Mérine quoi, qui a frappé les imaginations. Avant de vous laisser nous donner des détails très très intéressants que vous signalez dans votre livre, on va écouter la première étape de la légende. Hein. Bon, alors on est en septembre 1973, très exactement le 28 septembre, ce jour-là. Mérine est arrêté dans son appartement parisien par la brigade anti-gang, dirigée donc là à l'époque par Broussard, par
Robert
Broussard. Qui
assiste très exactement la brigade territoriale.
Voilà, qui les a appelés, bon, etc. Sûr. Il y a un siège de 20 minutes sur lequel on va revenir, et là on apprend que l'ennemi public numéro 1 avait fini par se rendre avec un certain panache. Écoutez ce qu'en disait sur RTL Alain Hamon.
Auteur de deux hold-up la semaine dernière, Jacques Mérine a été capturé par les hommes des commissaires Broussard et Leclerc. Réfugié avec une amie dans un appartement de la rue Vergniaud, il a accepté de se rendre en exigeant des policiers qu'il laisse partir sa compagne libre. C'est ensuite un véritable roman policier qu'ont pu vivre les rares témoins du siège. Durant 20 minutes, Mérine a brûlé des papiers compromettants tandis que Robert Broussard attendait derrière la porte. Le commissaire a été obligé de passer sa carte de la préfecture sous l'huisse de l'appartement et lorsque Jacques Mérine a été certain d'avoir affaire à l'as des anti-gangs, il lui a ouvert le champagne à la main, ses nombreuses armes déchargées près de lui. Mérine a d'ailleurs prévenu qu'il s'évaderait à nouveau, comme l'a expliqué le commissaire Leclerc au micro de Robert Cessieux.
Nous avons monté une opération au domicile, et après avoir parlementé pendant 20 minutes environ avec Mérine, celui-ci a accepté de se rendre. Je dois dire que tout le monde a été soulagé, car dans le logement, se trouvait un arsenal assez impressionnant, puisque nous avons saisi une mitraillette, des fusils à canoncier et de nombreux pistolets et revolvers de gros calibre et des munitions en nombre assez important.
Est-ce qu'il vous a dit qu'il s'évaderait à nouveau ?
Oui, c'est vrai, il a manifesté le désir de s'évader à nouveau et je pense que si l'occasion se présente, il est tout à fait capable de saisir cette chance. Par conséquent, je pense qu'il y aura le plus grand intérêt à le surveiller très étroitement.
Oui, commissaire Leclerc, savait ce qu'il disait, hein.
Oui, oui, prémonitoire. Ah. D'autant plus que Leclerc sera le futur patron de la brigade anti-gang, justement.
Quand on parlait, Alain Hamon parlait de scènes de film, c'est vrai, parce que à l'époque, vous redonnez les dialogues dans votre livre. Mm-hmm. C'est, si t'es un homme, est-ce que t'es capable de venir devant la porte?
Ah, c'est
passe
du western.
Ta carte sous la. Alors, c'est pas d'ailleurs sa carte de police, hein.
Non, non, il c'est sa carte d'identité.
Pourquoi? C'est curieux.
Il n'était pas fou, Robert Broussard.
Pas fou, donc, pourquoi?
Il
n'allait pas partir avec sa carte de police.
Une carte de police, voilà, c'est quelque chose auquel un policier, notamment un policier du 36.
Non,
pas, voilà, donc la carte d'identité, ça suffisait.
Mais il vient quand même sans gilet pare-balles, sans armes.
On lui dit ça, il y a autour de lui, je crois qu'il y a Bernard Pire et encore d'autres inspecteurs.
Ouais.
Il se présente sans armes. Les deux personnes, de toute façon, c'est peut-être le seul point commun, Mérine et Broussard ont un courage physique exceptionnel, les deux.
Ouais.
Y en a un qui a quand même un cerveau un peu plus développé que l'autre, donc qui sait à un moment où il faut s'arrêter. Mais les deux personnes ont ce truc-là. C'est vraiment un truc d'homme à homme.
Ouais.
C'est un côté, c'est presque du Sergio Leone ou du Duel au Soleil.
Et l'histoire du champagne, c'est
alors, vrai. Il se présente, la porte s'ouvre. Il a un énorme cigare à la main allumé. Il regarde Broussard et fait « Avoue que ça a la gueule d'une arrestation pareille. » Et il se tourne vers le fond de l'appartement et fait « Fifi, fais donner du champagne pour ces messieurs. » Authentique.
Et donc, il trinque, etc.
Et après, il y a le procureur et le directeur de la PJ qui arrivent sur les lieux et qui découvrent un peu surpris, pour le moins, un malfaiteur hilar en train de boire le champagne et qui d'ailleurs se tourne et « Le proc, tu prends une petite coupe ?»
Là, on est vraiment là, dans les coulisses des affaires.
Le procureur n'a pas voulu. Hein.
Alors, évidemment, il va y avoir un procès.
Bien sûr.
Et au cours de ce procès, vous en parlez dans votre livre, Mathieu Frachon, parce qu'il va y avoir une sorte de défi que va lancer Mérine à Broussard. Encore une fois, on est dans un western, là.
Il est fidèle à sa légende. Il s'est bâti une légende, Jacques Mérine. Et celle-là, elle l'emmènera jusqu'à la mort. Et cette légende-là, il y a cette partie-là, ce procès-là, on fait partie. Et si on n'a pas en tête ce procès, ce qui s'y passe, on ne peut pas comprendre ce qui va se passer et comment il va être abattu. Très simplement, il regarde, il fait le récit de l'arrestation au champagne. C'est Broussard qui le fait. Robert Broussard le fait à la barre, puisqu'il l'a appelé à témoigner.
Ouais.
Mais il intervient, il dit « ça s'est passé exactement comme ça, mais je voudrais dire quelque chose. La prochaine fois, Broussard, il n'y aura pas de champagne, il n'y aura pas de cigares, il n'y aura pas d'arrestation comme ça. Ça sera face à face, et le premier qui tirera aura raison. » Et si on n'a pas cette phrase terrifiante dans la tête, le premier qui tirera aura raison, on ne peut pas comprendre ce qui va suivre.
Alors ce qui va suivre, c'est beaucoup plus tard, c'est en novembre 1979, le 4 novembre, tout le monde se souvient, cette voiture dans laquelle se trouvent Mérine et sa compagne, on est dans le quartier de la Porte de Clignancourt. 50 policiers sont disposés tout autour.
Une quarantaine, je crois, plus précisément.
Et Mérine est abattue par les policiers de la brigade anti-gang. Vous racontez ça en détail dans votre livre. On y revient dans un instant. Une heure plus tard, après donc la mort de Mérine, on n'est même pas encore sûr, je crois, dans la presse de ce qui s'est vraiment passé. Thierry Dathis, de la rédaction d'RTL, ouvrait son journal par ce récit.
Jacques Mérine est mort. Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, est tombé tout à l'heure à Paris dans les mailles des policiers, il y a un peu plus d'une heure. Il est 15h15 exactement, Porte de Clignancourt, Paris. plusieurs voitures et véhicules occupés par des policiers en civil encerclent subitement une voiture. Des policiers de la brigade de répression et d'intervention commandés par le commissaire Broussard et l'office central de répression du banditisme. Les policiers très vite tirent. Jacques Mérine, l'occupant de ce véhicule, est abattu. Une femme qui l'accompagnait, elle aussi est abattue. Elle serait sa maîtresse. Alors qu'il est, on ne sait pas s'il est décédé ou s'il est blessé, mais j'apprends à l'instant qu'elle ne serait pas morte. Et j'apprends aussi que Jacques Mérine avait une voiture piégée, car il n'a pas pu utiliser les deux grenades qu'il avait à bord de sa voiture. Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, est mis au courant de la mort de Jacques Mérine à 15h27 exactement.
Ça correspond, Mathieu Frachon, à ce qui s'est passé là, on est une heure après l'événement. Hein.
Le récit à chaud est assez correct. Hein. Après, il y a plein de choses qui se sont passées autour. Il y a plein de...
On a dit qu'il avait été abattu volontairement par la police,
voilà,
mettant les points sur les...
On a entendu qu'il y a beaucoup de gens qui avaient pris Jacques Mérine comme une sorte d'idole, de bandit au grand cœur, qui admiraient un combat juste, qui était celui contre les quartiers de haute sécurité, qui était quand même quelque chose d'assez inhumain. Mais en dehors de ça, c'était pas tellement ça. Donc, il y avait les pros, les anti. Et globalement, il n'y a jamais été question de l'abattre. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu tirer à vue.
Il y a dans votre livre témoigne notamment Joe Kerry, qui faisait partie de l'équipe, qui est le premier qui braque.
Qui est en train de le braquer. Joe Kerry, Bernard Pire qui témoigne.
Et alors, comment ils vous le racontent alors?
Pour eux, très clairement, si quand ils se mettent d'un côté et de l'autre de la voiture, ils sortent, ils disent police, ils le voient. Si Jacques Mérine, à ce moment-là, lève les mains et les pose contre le pare-brise, l'affaire est finie.
D'accord.
Sauf qu'il a le mouvement d'aller vers la gauche, d'essayer d'ouvrir la portière et de passer la main sous son siège.
Et à ce moment-là, ce ne sont pas les policiers qui le braquent, qui tirent.
Ceux qui sont dans le camion en face. Mmh. La bâche était relevée, et non pas baissée, ils ne l'ont pas relevée au milieu, contrairement à ce qu'on a vu dans certains films. Ouais. Ils n'étaient pas accoudés et assis dessus, ils étaient allongés. Mmh. Ils ont tiré, ils ont vu leur... on est à midi, vers midi ou 15h, je ne sais plus. On est en plein circulation, porte de Clignancourt. Comme dit Roger Stella, si jamais... c'est Bernard Pire qui me dit, mais si jamais il avait pu se servir de ses armes, qu'est-ce qu'on aurait pris?
Un carnage.
Ben voilà.
Alors on va faire une pause et puis on va vous retrouver tout de suite après. On va évoquer une autre page agitée de l'histoire de l'anti-gang avec la fusillade au bar du Télém et l'affrontement avec le fameux clan des Z comme Zemmour. Le temps de quelques publicités.
L'heure du crime sur RTL.
On le disait tout à l'heure, les activités de l'anti-gang ne sont pas uniquement de traquer les auteurs de braquage. La brigade intervient aussi sur le terrain dans des enlèvements, des prises d'otages, des arrestations de forcenés. Enfin, tout ce que font maintenant des brigades spécialisées, comme le RAID. Et évidemment, on peut pas parler de l'histoire de l'anti-gang. Évidemment, vous y consacrez de très belles pages, d'ailleurs, dans votre livre, Mathieu Frachon, les enlèvements, parce que ça a été une épidémie. Dans les années 70, le Baron Empain, Louis Hazan, le PDG de Phonogramme,
les bandits ne manquent pas d'imagination, et quand il s'agit d'adapter à la française une recette qui marche ailleurs, ils le font. Donc en Italie, à l'époque, il y a une recrudescence d'enlèvements, souvent terroristes ou mafieux. Alors la différence entre les deux, c'est que les terroristes, la rançon... Ça les intéresse très moyennement. Oui. Tandis que les mafieux, c'est fait pour ça. Oui. On a baptisé ça d'ailleurs enlèvement à l'italienne. Oui. Et très souvent, ça avait une fin tragique. On tuait l'otage.
Oui. Et c'est là où, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est là où la religion, j'allais dire, entre guillemets, de la police devient... On ne paye pas de rançon.
Alors là, c'est
c'est très compliqué.
Ce qui va être très très fort, c'est pareil. On va avoir un autre policier d'exception à l'époque qui s'appelle Pierre Ottavioli, qui est le patron de la brigade criminelle, et qui dit c'est simple, on piste la rançon jusqu'au bout. Les malfaiteurs seraient prêts à aller prendre la rançon quasiment même à l'intérieur du 36 s'ils pouvaient.
Oui.
C'est un précédent, vous me direz. Et ensuite, ils sont tout à fait incapables de résister à l'alliance de la brigade anti-gang sur le terrain, c'est-à-dire qu'il va pister, faire la filature, etc. Ouais. Et de la brigade criminelle au niveau de l'enquête.
D'accord.
Pour résister aux deux, Dixit Ottavioli, il faudrait une armée.
Et c'est comme ça que ceux qui ont enlevé Hazan vont se faire prendre place de la Bastille, je crois, vous raconter ça.
Avec Bernard Pire qui sort de la voiture et fait un plongeon digne d'un goal de l'équipe de France.
Voilà, bon. Il y a évidemment aussi l'enlèvement du Baron Pain et puis beaucoup d'autres événements, d'autres moins connus qui ont curieusement d'ailleurs plus marqué peut-être ceux que vous avez interrogés.
Il y a un peu de tout sur des enlèvements qui ont été moins médiatiques, mais qui étaient bons aussi. Enfin bon, si j'ose dire. qui était assez fort. Malais, moi, je reste quand même encore dessus, parce que c'est vraiment c'est emblématique. C'est un enlèvement absolument extraordinaire. Hazan aussi, c'est un enlèvement qui a été extrêmement lourd, extrêmement difficile, d'autant plus qu'il a été réalisé avec une complicité à l'intérieur.
Alors, pour revenir au banditisme, on ne peut pas ne pas parler, mais quelques instants avant de rejoindre le commissaire Broussard ensuite en direct, le bar du Télém. Alors ça, là, on est dans la première manière de l'anti-gang, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils ont appris et on est...
Il y a en fait une guerre.
Le 28 février 1975, ils ont appris que dans la guerre qui oppose les Émours aux Siciliens, il y a des tractations et un indicateur leur dit qu'ils vont se retrouver dans un bistrot de Saint-Germain pour signer une sorte d'armistice.
Il y a le tas de crimes.
Voilà, et Broussard et Marcel Leclerc, qui ont le tuyau, décident d'aller sur le terrain.
Dans des circonstances très très délicates et très particulières. C'est-à-dire que la veille, durant toute la nuit, une partie de la nuit, l'anti-gang s'est retrouvé sur le terrain sur un braquage avec prise d'otage. Braquage dans lequel peut-être, on est obligé de mettre des guillemets, aurait participé à un des futurs postiches.
Bon. D'accord.
Ensuite, se retrouve le lendemain donc avec ce tuyau de dernière minute. On leur dit voilà, il y a ça. Ils vont se retrouver dans un bar, le bar s'appelle J'ai du bon tabac, il est boulevard Saint-Germain. Oui. Quand ils arrivent sur place, ils ramènent tout le monde, etc. Et quand ils arrivent sur place, après une nuit qui a quand même été fatigante, ils se retrouvent à comprendre qu'il y a d'un côté les Émours, de l'autre côté, deux consommateurs avec des lunettes noires qui sont...
qui vont se révéler, en fait.
Qui sont pour rien dans l'histoire.
Les passants, ils ont le tort d'avoir des lunettes noires et voilà,
c'est un peu ça.
Ils ressemblent à des voyous, pas des voyous.
Et ce qui va se passer, tout simplement, c'est qu'à ce moment-là, Marcel Leclerc dit, bon, pas question de les voir s'entretuer au milieu du boulevard Saint-Germain. On intervient.
Voilà, parce que on a vu que dans l'autre bistrot en face, qui surveille le premier bistrot,
dans le Télém, il y a toute la famille Zemmour.
Tous les Zemmour, voilà. Et quand les policiers entrent, c'est une fusillade générale.
Il y a un inspecteur qui rentre, qui s'appelle Chex, qui est surnommé 5-5, parce qu'à la radio, il dit toujours 5-5, reçu, etc. qui rentre, pas fou, sans flingue, juste en disant « police ».
Oui. Et pour ne pas créer, justement.
L'un des gardes du corps... Ouais. Alors, la version policière et de l'enquête, l'un des gardes du corps dégaine, tire.
Et
à ce moment-là, ça tire dans tous les sens, évidemment, ça se bat. Parce que très vite, il faut que ça arrête de tirer, ça se bat. Il y a deux avocats au milieu qui n'y sont pour rien.
Mais qui vont,
l'histoire va faire un pataquès épouvantable. Je suis assez content d'avoir rencontré d'ailleurs quelqu'un qui n'était pas du tout pro-anti-gang à l'époque, qui est Gilles Millet, présenté d'ailleurs comme un anti-flic primaire par certains, mais qui m'a donné une version que je trouve aussi intéressante, qui a eu aussi sa vision de l'époque, disons.
Alors, je renvoie tout le monde à votre livre pour les détails, parce que c'est une histoire complexe. Il faut vraiment prendre le temps à tête reposée de lire ça, mais c'est absolument une démonstration que je trouve personnellement parfaite. D'ailleurs, on demandera l'avis de Robert Broussard, puisqu'il a écrit la préface de votre livre. Il a forcément lu ce passage.
J'espère.
Et puis, on va profiter des quelques minutes que nous allons passer avec Robert Broussard pour parler de cet anniversaire et des grands moments qui lui restent en tête aujourd'hui encore.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Avant de prendre en ligne Robert Broussard, je voudrais qu'on évoque un peu sa carrière à travers un document RTL qui date du 28 novembre 1996. C'est à cette date-là que Robert Broussard part en retraite. Mmh. Il a 60 ans, 36 ans de service. Et à cette occasion, Xavier Benerozzo retraçait sur RTL la carrière de cette figure incontournable et légendaire de l'anti-gang.
C'est un assassinat. La police a suivi mes frères depuis le matin au Faubourg Montmartre. Je peux amener des preuves.
Ils ont... il y a une petite erreur là. On était sur un autre son qui était prévu. Donc on va reprendre tranquillement pour écouter le portrait que dressait Xavier Benerozzo sur l'antenne d'RTL de Robert Broussard, donc le 28 novembre 1996.
Je lui ai dit, conduis-toi en homme, tu peux avoir confiance. Alors il s'est rendu, souriant et décontracté. En 75, Broussard raconte comme ça l'arrestation d'une figure du grand banditisme, Villoquet. Un collier de barbe, des yeux qui rigolent, un franc-parler, loin, très loin des propos de salon. Ce commissaire médiatique va, comme on dit dans le milieu, pouvoir se ranger des voitures. L'histoire de ce policier, c'est la lutte contre les voyous, les prises d'otages à répétition, la brigade anti-gang. L'ennemi public numéro un l'avait qualifié de grand flic. En 79, Jacques Mesrine tombe, criblé de balles. Broussard regrette cette mort violente.
Aux assises, il m'avait prévenu, Broussard, le premier qui tira aura raison. Il a pris l'initiative de déclencher les hostilités. J'aurais préféré que ça se passe autrement.
Janvier 83, la Corse, Broussard est nommé préfet. Écoutez, l'analyse n'a pas pris une ride.
Il y a les purs, si vous voulez, du FNC, et ceux qui y croient. Et puis il y a ceux qui appartiennent au milieu, à la voyoucratie.
Mais l'ordre ne reviendra pas dans l'île de beauté. Retour sur le continent, fin d'une époque. Robert Broussard peut maintenant mettre au placard son code d'honneur avec les grands truands, sans haine ni violence.
Bonjour Robert Broussard.
Oui, bonjour Jacques Pradel.
Merci beaucoup d'avoir pris quelques instants. Bon, tout ça, ça vous ramène un peu en arrière, mais enfin, vous avez écrit la préface du livre de Mathieu Frachon. On peut dire que, bon, bien sûr, vous avez eu beaucoup d'activités qu'on vient de rappeler là dans le papier de Benerozzo, mais votre passage à l'anti-gang, c'est quand même les grands moments de votre vie, non ?
Oui, c'est-à-dire j'y suis resté à peu près 11 ans.
Oui.
D'abord comme adjoint et ensuite comme patron pendant 4-5 ans. Ouais. Ça reste des souvenirs bien sûr extraordinaires. Qui font date dans l'existence.
Qu'est-ce que c'est, Robert Broussard, que cette histoire de blouson ? Si vous n'aviez pas votre blouson pour les opérations, il y avait des gens de vos hommes qui se disaient « Oh là là, ça va mal se passer, racontez-moi.
» Vous savez, on arrive à avoir finalement les uns et les autres en certaines circonstances, des habitudes.
Oui.
Et habituellement, je prenais donc ce blouson.
Oui.
Et lorsque je n'avais pas de blouson, nombreux de mes collègues, des collaborateurs, mes amis, disons, me disaient « Oh là là, le chef, il n'a pas le blouson, ça, c'est pas bon. » Parce qu'il portait chance, ce blouson. Alors, mais je l'avais toujours dans le coffre de la voiture, donc je le mettais, puis voilà. Et une fois, je l'avais oublié, pour la petite histoire, je l'avais oublié, et l'un des gars me dit « Putain, si vous n'avez pas de blouson, il faut en prendre un autre. » Alors, ça, j'en prends un, d'un copain, et lequel me dit « Non, je ne veux pas le prêter, mais il va me le rendre troué de balles. » Bon, non, c'est pour citer un petit peu l'ambiance, mais c'est vrai qu'on a quelques-uns... avoir des habitudes comme ça.
Ouais. Alors évidemment, vous avez été, on peut le dire, j'ai bien lu attentivement ce que dit à ce propos Mathieu Frachon, vous avez été un petit peu poussé sur le devant de la scène à un moment, notamment par les politiques, que ça a arrangé d'avoir un flic un peu emblématique, un peu le commissaire Maigret pour de vrai, quoi. Comment vous avez vécu avec cette notoriété ?
Mais disons, au début, très mal, parce que j'avais quand même certaines promesses, justement, de ne pas... me montrer en public, parce que je suis toujours resté fidèle au terrain, et le premier qui m'a envoyé sous le terrain, devant les caméras, c'est Raymond Marcellin,
oui.
Après une prise d'otage qui s'était bien passée à Brest, et là il m'avait dit non, il faut absolument y aller, et je croyais de l'avoir dissuadé, lorsqu'au dernier moment il me dit ma voiture vous attend, vous allez tout de suite dans les studios, et puis voilà comment j'étais propulsé, ouais. Mais... ce premier exemple a été suivi d'autres, notamment lorsque j'ai été nommé en Corse. Bon, donc on voulait marquer le coup par une certaine efficacité, mais encore une fois, c'était Broussard, mais c'était avant tout l'image d'un service, si vous voulez, de la brigade anti-gang.
Voilà, c'est ce que vous dites, et c'est ce que dit d'ailleurs Mathieu Frachon, quand vous jetez un regard en arrière sur ces années, c'est une équipe, c'est un partage commun d'un courage important, parce que on parle toujours on a beaucoup parlé de vous, parce que vous n'hésitiez pas, sans gilet pare-balles, sans armes, à aller affronter, c'est quand même un sacré coup de poker, et souvent vos hommes faisaient la même chose.
Oui, c'est vrai, et je me souviens d'une parole de Mérine, qui un jour, après après, enfin, du moins, lors de l'arrestation rue Vergniaud, où il m'avait dit, entre autres, Broussard, faut que tu mérites ta victoire. Et c'était ça. C'est-à-dire que c'était un espèce de duel psychologique entre lui et moi, et il fallait pas que je me montre inférieur à lui, et réciproquement, si vous voulez. Donc, ouais. Lui, il voulait bien se montrer courageux. Moi, je ne devais pas faire moins, et vice-versa. Vous voyez.
Ce qui fait que le jour où vous passez votre carte d'identité sous la porte, là, sur ce palier, vous êtes sans armes, vous êtes sans protection, et si tire à travers la porte, vous êtes mort.
Ben oui, ça faisait partie d'un espèce de marché peut-être un peu idiot entre lui et moi, mais je devais montrer que j'étais son égal, en quelque sorte. Il était courageux, mais je pouvais pas me montrer inférieur. Et je rectifie tout de suite, je n'ai jamais montré ma carte de police sous la porte. C'est une vague carte où il y avait ma photo, je ne sais pas si c'était pas une carte de pêche ou un truc comme ça.
Mais carte de pêche.
Ça s'arrête là, quoi.
Oui, mais ça, franchement, nous l'avait expliqué. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci infiniment, Robert Broussard. Cet anniversaire, évidemment, de l'anti-gang, on va continuer à vous en parler pendant longtemps, hein, de toute façon.
Oui, c'est exact, mais j'en profite encore une fois pour saluer tous mes anciens complices, entre guillemets.
Merci infiniment, Robert Broussard.
Au revoir.
Merci, au revoir. Mathieu Frachon, merci beaucoup. L'émission est terminée. Je rappelle le titre de ce livre, donc préfacé par Robert Broussard, La grande histoire de l'anti-gang, qui est paru hier, donc c'est tout chaud, aux éditions Pygmalion. Et pour ceux qui vous ont écouté, qui sont peut-être dans le Var en ce moment. Bah, ce week-end, vous serez à la fête du livre de Toulon, où vous allez dédicacer votre livre.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous pouvez, vous pouvez partir, vous êtes libre.
Merci, monsieur le commissaire.
À très bientôt. L'émission est terminée, on retrouve Flavie Flamand dans un instant.